l'écoute de Radio France Internationale, nous sommes le 4 mai 2022. Bonsoir à toutes et à tous. Place à votre journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Avec au sommaire la Russie visée par de nouvelles sanctions européennes, la commission de Bruxelles a finalisé des mesures contre des personnalités et des banques russes. Elle préconise surtout un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. La Hongrie n'est pas d'accord. Elle réclame des garanties pour sa sécurité énergétique. Sur le continent africain, en Guinée-Conakry, la justice lance des poursuites contre l'ancien président Alpha Condé et une trentaine d'anciens hauts responsables, tous poursuivis pour notamment assassinat, actes de torture et enlèvement. Dans l'actualité française, les préparatifs des élections législatives, la gauche bien partie pour présenter un front uni. Après les écologistes et les communistes, les socialistes ont trouvé à leur tour un accord avec la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Le journal en français facile.
En français facile.
Direction la Guinée pour commencer ce journal avec les poursuites lancées par le procureur général de Conakry contre l'ancien président Alpha Condé, une trentaine d'anciens hauts responsables guinéens. Ils sont poursuivis pour notamment assassinat, actes de torture et enlèvement. Ces poursuites ont été lancées dans le cadre de violences qui avaient entouré le projet d'un troisième mandat d'Alpha Condé, Sébastien Lemet.
Notamment la répression des manifestations qui avaient entouré ce référendum permettant de modifier la constitution pour qu'Alpha Condé reste au pouvoir. La crise avait entraîné des dizaines de morts. Le collectif FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, avait mené pendant des mois ce mouvement de colère. C'est lui qui a porté plainte contre Alpha Condé et 26 anciens hauts responsables civils et militaires de son régime. Parmi eux, on trouve l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, l'ex-ministre de la Défense, Mohamed Diané, le général Ousmane Camara, qui était directeur général de la police à l'époque, etc. Dans ce groupe, certains sont déjà visés par des poursuites judiciaires, mais pour des faits présumés de détournement de fonds. Là, cette fois, on est au pénal avec des accusations de meurtre, disparition forcée, torture, agression sexuelle, enlèvement ou encore séquestration. Le procureur lance donc une enquête avec déjà des éléments de preuve, images, vidéos fournies par le FNDC. Il se base aussi sur des rapports d'ONG internationales comme Amnesty et Human Rights Watch. Le magistrat évoque par exemple les propos belliqueux d'Alpha Condé et son entourage lors de meetings politiques, appelant explicitement les populations à l'affrontement. Il cite aussi l'impunité totale dont ont bénéficié les forces de sécurité.
Sébastien Nemet, un embargo total sur le pétrole russe, c'est la proposition faite aujourd'hui par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Embargo total, mais progressif. Les 27 auraient 6 mois pour renoncer au brut et 8 mois pour se passer des produits dérivés du pétrole. Les mesures comprennent aussi des sanctions contre les personnalités et puis de nouvelles mises à l'écart du système bancaire international SWIFT. S'il est approuvé par les États membres, il s'agirait là du 6e train de sanctions européennes contre Moscou. Mais certains États refusent de s'associer à l'embargo. C'est le cas notamment de la Hongrie, dont l'économie est très dépendante du pétrole russe. Correspondance à Budapest, Florence Labrouillère.
Pas question de voter l'embargo. Le gouvernement de Viktor Orban est droit dans ses bottes. C'est une question cruciale pour nous. Impossible de faire fonctionner notre économie sans le pétrole russe, insiste le ministre hongrois des Affaires étrangères. La Hongrie est très dépendante. 65% de son pétrole vient de Russie, alors que l'Allemagne achète seulement 25% de son or noir à Moscou. Le gouvernement Orban veut montrer à son opinion publique qu'il est inflexible face à Bruxelles. On ne peut pas conduire une voiture ou chauffer une maison avec de l'idéologie, dit le porte-parole du gouvernement hongrois, qui accuse souvent Bruxelles de manquer de pragmatisme. C'est par le pipeline de l'amitié que le pétrole russe arrive en Hongrie. Il sera difficile à ce petit pays enclavé de diversifier son approvisionnement en énergie. Cela pourrait prendre 3 à 5 ans, selon le gouvernement hongrois. Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
L'Europe n'est pas la seule. Le Japon a lui aussi pris des sanctions contre la Russie, laquelle vient de riposter. En guise de rétorsion, elle interdit l'entrée sur le territoire à une soixantaine de responsables japonais, dont le Premier ministre Fumio Kishida. Sur place, en Ukraine, les forces russes tirent des missiles sur de nombreuses cibles à travers le pays, jusqu'à Lviv, près de la frontière polonaise, également vers la région montagneuse proche de la Hongrie. En ce qui concerne l'usine Azovstal de Mariupol, la situation est confuse. Le Kremlin a démenti tout assaut lancé par les forces russes contre la dernière poche contrôlée par les Ukrainiens à Mariupol. L'actualité à présent en Chine, où une cinquantaine de nouveaux cas de Covid ont été signalés ces 24 dernières heures à Pékin, ville de 21 millions d'habitants. Pourtant, les autorités ne relâchent pas leur très stricte politique appelée zéro Covid. Pékin vient ainsi de fermer des dizaines de stations de métro de façon à restreindre les déplacements des habitants de Pékin. À la page économique à présent, vers un relèvement des taux directeurs aux États-Unis. Dans quelques heures commencera la réunion de politique monétaire de la Fed, moment toujours très attendu. Notre envoyé spécial permanent à Washington, Guillaume Nodin.
Oui, les observateurs s'attendent à ce que le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, annonce une hausse d'un demi-point des taux de son institution. C'est beaucoup en une seule fois. Ce n'est d'ailleurs pas arrivé depuis l'an 2000. Si la Fed prévoit une politique si agressive, c'est en raison de l'inflation. En mars, les prix étaient en hausse de 8,5% sur un an. Un plus haut en 40 ans, en cause la guerre en Ukraine et les problèmes d'approvisionnement. Cette hausse est notamment alimentée par les prix de l'énergie et particulièrement du carburant à la pompe qui reste très élevé. Les prix de la nourriture sont aussi en hausse. Autre facteur, les salaires en hausse. Les employeurs sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre et doivent faire de meilleures conditions à leurs employés pour les attirer ou les retenir alors que le taux de chômage est au plus bas. Alors c'est très bien pour les salariés, entendons-nous, mais ça se répercute sur les prix. Il faut donc tenter de calmer tout ça. Mais la difficulté, c'est qu'il faut réussir à le faire sans casser la reprise économique américaine, très vigoureuse depuis l'an dernier, mais qui a semblé s'essouffler au premier trimestre. Le PIB s'est même contracté. On ne commence pas à parler de récession. Hein. On n'en parle qu'après deux trimestres consécutifs de baisse. Là-dessus, les économistes restent optimistes car la consommation, principal moteur de la croissance américaine, se maintient. Mais il s'agit à l'évidence d'un équilibre fragile.
Guillaume Nodin à Washington pour Radio France Internationale.
Le journal en français facile.
En France, les préparatifs concernant les élections législatives, la gauche devrait présenter un front uni le mois prochain. La France insoumise, partie de Jean-Luc Mélenchon, est en passe de réunir ses anciens concurrents pour les scrutins des 12 et 19 juin. Après les écologistes et les communistes, les socialistes ont trouvé à leur tour un accord avec la France insoumise. Le projet d'accord porte sur la stratégie, le programme et les circonscriptions. Les socialistes obtiennent 70 circonscriptions. Il doit encore être soumis à l'approbation des socialistes. Dans l'actualité française également, une femme de 38 ans doit répondre devant la justice de l'agression d'un pompier. C'était dimanche à Paris, en marge des manifestations du 1er mai. Des images ont montré cette femme en train de frapper le casque d'un pompier et tenter de l'empêcher d'éteindre un incendie. Des images qui ont suscité une vive indignation, notamment sur les réseaux sociaux. À l'issue de sa garde à vue, cette femme a été déférée au parquet en vue d'une comparution immédiate. Dites-nous ce que l'on sait d'elle avec vous, Aram Beng.
La jeune femme de 38 ans n'est pas une inconnue. Elle apparaît en effet sur les réseaux sociaux, sur plusieurs images des manifestations des Gilets jaunes. L'auteur présumé de l'agression s'est également illustré pour ses publications contre le pass vaccinal. Pendant la manifestation de la fête du travail à Paris, cette mère de famille était strict médic, c'est-à-dire une bénévole pour prodiguer les gestes de premier secours aux blessés. Dans la vidéo qui a permis de l'identifier, on la voit s'en prendre à un pompier qui tente d'éteindre un incendie. La victime a déposé une plainte, ce qui vaut à cette militante proche de la France insoumise une comparution immédiate ce mercredi. Dans une interview qu'elle a accordée en 2021 à un média étranger lors d'une manifestation contre le pass vaccinal, elle s'est présentée comme étant une infirmière avant de préciser qu'elle a démissionné de son poste pour protester contre l'obligation d'être vaccinée contre le COVID-19. Dans l'affaire de l'agression du pompier, cette femme est poursuivie pour violence sur personne chargée des missions de service public, outrage et rébellion, entre autres.
C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à Rambeng et merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne soirée à l'écoute d'RFI.